J'ai plusieurs fois entendu dire que devenir chrétien était la solution de facilité. C'était pour les faibles et les vieilles dames. Or, juste avant d'aller à la croix, le Christ a passé plusieurs heures à enseigner ceux qui disaient vouloir le suivre en leur précisant les exigences qu'impliquait un tel engagement. Jésus s'est comparé à un cep de vigne et ses disciples au sarment. Il a déclaré qu'il attendait de ses fidèles qu'ils le placent en premier lieu dans tous les domaines de leur vie. Ceux qui ne sont pas prêts à un tel sacrifice, il n'en veut pas. Ils sont tout simplement retranchés, coupés du cep, jetés hors de la vigne et brûlés. Oh, ils sauvent peut-être les apparences en conservant l'enveloppe du christianisme, mais la coquille est sans vie, vide. Voilà des paroles qui font réfléchir. Je continue le texte dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Versets 7 à 8. Quand je lis un passage des Écritures où il est question de réponse à la prière, mon attention grandit. Mais je tiens compte de tout ce qui est autour du passage, car le contexte est essentiel pour bien le comprendre. La promesse d'un exaucement concerne quelqu'un qui est en communion étroite avec le Christ. C'est une personne qui obéit à ses commandements et dont le désir est d'être utile à l'œuvre de Dieu et à l'avancement de son règne sur terre. Il ne réclame pas une voiture flambante neuve ou une nouvelle télé, mais il veut voir avancer le programme de Dieu et aspire ardemment à ce qu'un royaume de justice, d'amour et de sainteté soit établi sur terre. Les hommes ont essayé, et essayent toujours, de recréer le paradis terrestre, mais en vain. Cela n'aura lieu que lorsque Jésus reviendra en force pour l'imposer, comme cela est décrit dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, le disciple est appelé à porter du fruit en abondance. Son comportement de tous les jours doit être à la hauteur de l'enseignement que Jésus a donné. J'ai lu quelque part l'autoportrait d'un prédicateur noir américain qui était devenu chrétien tard dans sa vie. Il est éventuellement devenu pasteur d'une toute petite église en zone rurale. Or, avant de devenir croyant, il se servait assez librement des produits des fermes environnantes. Un soir, en revenant d'une réunion, il prit un autre chemin et passa devant un élevage de volailles en plein air et facile d'accès. L'envie de s'emparer de quelques poulets s'imposa fortement à lui, car ses revenus étaient bien minces. Il arrêta sa voiture, regarda les volailles, invoqua Dieu, puis repartit. Désormais, il ne pouvait plus se comporter comme il l'aurait fait dans le passé. Le disciple est appelé à vivre dans la lumière et à le montrer par sa conduite. Je cite les paroles de Jésus. « Que votre lumière brille devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Fin de citation. C'est en obéissant selon les commandements que Jésus nous a laissés que je révèle la gloire de Dieu par ma vie. Je continue le texte. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, vous donc, maintenez-vous dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Versets 9 à 10. L'amour de Jésus a la même qualité et grandeur que celui du Père. Jésus aime ses disciples de la même façon que le Père aime le Fils. La réciproque est tout aussi vraie. Et l'amour du Fils pour le Père est le modèle de l'amour du croyant pour le Christ. Demeurer dans l'amour de Jésus n'est pas mystique du tout, mais très concret, puisque cela consiste à obéir aux commandements de Dieu. Ce que le Père exigeait du Fils l'est aussi du disciple. En parlant de la sorte à ses apôtres et à ceux qui l'écoutaient, Jésus place la barre tout aussi haute pour eux qu'elle l'était pour lui-même vis-à-vis de son Père. Le chrétien consacré doit avoir à l'égard de Jésus la même dévotion que lui-même avait envers son Père. Je continue le texte. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Verset 11. Parler de sa joie sont bien d'étranges paroles de la part de celui qui allait être crucifié le lendemain à l'aube. C'est bien la preuve que sa joie était indépendante des circonstances et provenait de son intimité avec le Père. Le thème de la joie revient à plusieurs reprises dans les chapitres qui suivent. Dans l'Ancien Testament, c'était l'une des marques du royaume messianique. Comme l'amour et la paix, la joie fait partie des caractéristiques du croyant qui marche à la suite de Jésus et que le Nouveau Testament appelle les fruits de l'Esprit. Le Seigneur éprouvait une joie continuelle à faire la volonté de son Père, qu'il qualifia aussi de nourriture. Je cite ce passage. « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Fin de citation. Jésus désire que je possède cette même joie. C'est pourquoi le but de son enseignement est de donner aux hommes l'opportunité d'avoir une vie abondante et non une existence minable, dénuée de raison de vivre. Ainsi donc, lorsque Jésus ordonne à ses disciples d'obéir au Père, c'est aussi afin qu'ils connaissent cette joie débordante qui était la sienne. Je continue le texte. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Versets 12 à 14. Après la joie vient l'amour. Jésus laissa un commandement très important à ceux qui se réclameront de lui. Il le répétera d'ailleurs un peu plus loin. La marque des disciples est de s'aimer entre eux, se soutenir, s'entraider dans les difficultés de la vie. C'est ainsi qu'ils résisteront aux persécutions qui ne vont pas manquer. Un chrétien digne de ce nom est quelqu'un qui m'accueille tel que je suis. Il ne va pas être choqué par ce que je lui raconte, ni me juger. Je peux lui confier mes problèmes et trouver en sa présence compréhension et réconfort. L'exploit le plus vertueux que quelqu'un puisse faire pour son ami, c'est de donner sa vie pour lui. C'est en effet la plus grande démonstration d'amour possible. L'exemple suprême est celui du Christ qui s'est laissé crucifier afin d'épargner le jugement éternel à tous ses amis. En réalité, il est très bienveillant de qualifier ses disciples d'amis, car après qu'il fut arrêté, ils ont tous paniqué et pris la fuite. En conséquence, ils ne mouraient pas vraiment pour des amis, mais pour des impies qu'il avait abandonnés. Ce n'est que plus tard que certains deviendront de vrais disciples. L'apôtre saint Paul l'explique ainsi. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore coupables, Christ est mort pour nous. » Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Fin de citation. Jésus est mort pour ses ennemis, pour les indifférents et les poltrons, ce qui augmente d'autant plus la grandeur de son sacrifice. Mais il avait en vue tous ceux qui deviendraient ses amis, ceux qui accepteraient son don incomparable du salut et qui mettraient ses commandements en pratique. Abraham aussi fut appelé « ami de Dieu » parce qu'il obéissait aux ordres de l'Éternel. La vie chrétienne consiste en une relation intime avec Jésus-Christ en lui obéissant, comme je l'ai déjà dit. En suivant ses commandements, le croyant devient ami de Jésus, porte de bons fruits et lui donne la preuve de son amour. Je continue le texte. « Je ne vous appelle plus esclave, parce qu'un esclave n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. » Verset 15. L'esclave ne jouit pas d'une relation intime avec son maître, comme c'est le cas pour des amis. En effet, le serviteur fait ce qu'on lui demande sans chercher à comprendre ce que fait son maître. Il obéit, un point c'est tout. Jésus ne désire pas une obéissance servile et aveugle à ses commandements de la part de ses disciples. Ce serait du fanatisme. Il souhaite, de leur part, une adhésion librement consentie au plan divin qu'il leur a expliqué. Voilà pourquoi il les appelle maintenant ses amis. Je continue. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. » Versets 16 et 17. À cette époque, la pratique courante était pour des non-initiés de choisir un rabbin qui les enseignerait concernant la loi. Dans l'économie divine, c'est le contraire. Dieu avait choisi Abraham et ses descendants qui sont devenus la nation d'Israël. De la même manière, Jésus a appelé ses apôtres à le suivre et à porter du fruit pour Dieu, ce qu'il a déjà expliqué en détail. La productivité des disciples a deux composantes. Tout d'abord, elle repose sur la réponse aux prières qui sont directement en rapport avec leur ordre de mission. Celui-ci consiste d'une part à une vie d'obéissance au commandement de Jésus et d'autre part à le faire connaître comme Sauveur et Seigneur. À côté des exaucements, les disciples seront d'autant plus efficace qu'ils auront un amour fraternel, sincère entre eux. D'où la répétition du commandement « Aimez-vous les uns les autres ». Je continue le texte. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Verset 18. Lorsque quelqu'un est ami de Dieu, il subit la haine du monde, et inversement également. Jacques, le frère de Jésus, a écrit une des lettres du Nouveau Testament dans laquelle il dit « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Fin de citation. En général, le terme « monde » représente l'ensemble de la société qui est hostile à Dieu et dominée par la puissance de Satan, appelée le prince de ce monde. Dès la naissance de Jésus, le roi Hérode le Grand a cherché à l'assassiner. Maintenant, il se dirige vers le supplice de la croix. Dans ce contexte, en parlant du monde, le Seigneur a d'abord à l'esprit les autorités juives qui sont les vrais coupables du meurtre du Christ. En effet, les Romains furent les instruments de la crucifixion, mais non les instigateurs. De plus, dès le début de l'Église, après la Pentecôte, ce sont les groupes religieux d'Israël qui vont persécuter les chrétiens. Ce n'est que bien plus tard que Rome va faire de même. Je continue le texte. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Verset 19. La raison principale pour laquelle le monde éprouve de la haine à l'encontre des croyants provient de leur allégeance à Jésus-Christ seul. Ils n'acceptent aucun autre guide et maître que lui. Et le sermon sur la montagne est leur idéal de vie, même si personne n'est véritablement capable de le mettre entièrement en pratique. Par leur mode de vie et leur croyance, les vrais disciples remontent le courant au lieu de descendre toujours plus bas avec les modes et les tendances de notre temps. Ils s'opposent de front à la philosophie de vie de la culture occidentale qui prône la tolérance et le syncrétisme tous horizons. De plus, la morale et les vertus ont très mauvaise presse de nos jours, parce que tous les points de vue et façons de vivre sont désormais acceptables. Il reste très peu de tabous et ils sont de plus en plus battus en brèche. À part certaines formes de violence, plus grand-chose ne provoque qu'une levée de boucliers. Nos concitoyens sont amorphes. Si on considère les 10 commandements que l'Éternel a donnés à Moïse, il y en a un qui est encore accepté, celui qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». À côté de celui-là, il y en a deux autres qui font toujours un peu froncer les sourcils lorsqu'ils sont violés. Il s'agit de « Honore ton père et ta mère » et « Tu ne voleras pas ». Quant aux autres, il y a longtemps qu'ils sont remisés au placard. Dans ces conditions, les disciples du Christ sont en quelque sorte la mauvaise conscience de leur entourage, ce qui n'est évidemment pas bien apprécié. Cependant, comme ils sont très peu nombreux, peu de gens se soucient d'eux. Pour qu'un groupe particulier marque sa société, il doit constituer au moins 1% de sa population. Or, on en est loin. Je continue le texte. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Versets 20 et 21. Jésus rappelle à ses disciples la déclaration qu'il leur a déjà faite. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Ils doivent donc prendre exemple sur son humble esprit de service. Le lien entre Jésus et les apôtres est constitué par la parole qu'ils proclameront. Ils le représenteront dans le monde et annonceront son message. En conséquence, ils expérimenteront eux aussi le même type de réaction que leur maître a vécu. Certains les écouteront, mais la plupart les rejetteront car ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils soient religieux ou qu'ils se disent athées. De la même manière que les Juifs ont haï le Christ, ils auront la même attitude envers tous ceux qui s'identifient à lui. Le nom de Jésus est odieux pour ses ennemis. Les persécuteurs juifs ont exigé des apôtres qu'ils ne parlent plus en son nom. Je lis le passage. Là-dessus, les autorités juives les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Jésus avertit ses disciples d'avance afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu quand ils seront persécutés. Comme un homme prévenu en vaut deux, ils savent maintenant à quoi s'en tenir. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.